bande originale du lundi au vendredi sur France Inter à partir de 11h.
Demande.
C'est la bande originale, soyez les bienvenus avec Leïla Kaddour Boudali, Daniel Morin.
Bonjour
Daniel.
Bonjour
Daniel. Oh, moi ça, il fait sa princesse. Tom Villard. Guilherme Auguise. Tout à l'heure, il y aura Tanguy Passuro et notre invité, maître Jean-Christophe Ruffin. Oh oui, on dit maître. On dit monsieur l'académicien ou comment vous voulez qu'on vous présente?
Bon, Jean-Christophe, c'est pas mal aussi.
Non, on se connaît pas. Non, je suis pas un type.
Ma couille, c'est trop tôt.
Non, ça va pas, Tom. Pardon. Ça va pas.
Tu demandes comment on parle.
Mais oui,
non, fait des propositions.
Ouais, exactement.
Monsieur l'académicien, moi je trouve ça chic. Voilà, on est ravis de vous accueillir.
Oui, Jean-Christophe, c'est bien.
D'autant plus ravi que.
Prends la confiance.
Bah oui, bah bon, je peux.
J'ai adoré le suspendu de Conakry, ce roman. Alors, on a le sentiment que c'est le premier d'une série avec cet Aurel, ce consul de France qui, contrairement à vous, n'officie pas au Sénégal, mais en Guinée.
Un peu à côté, oui. C'est pas très loin.
C'est un peu plus au sud, oui.
C'est un peu plus au sud. Bon, je voulais pas mettre au Sénégal parce que l'idée, c'est justement de pouvoir raconter des choses que j'ai vu, parce que quand même, en gros, tout ça vient de l'expérience que j'ai pu avoir comme
ambassadeur en Afrique.
Ouais.
Vous êtes encore tenu au secret, d'une certaine façon.
Voilà. Alors ça, c'est une manière d'en parler sans... Voilà, alors j'ai décalé les choses un peu. Voilà.
Vous avez un droit de réserve par rapport à, à la fonction, c'est vrai?
Oui.
Dommage, parce que hors antenne, vous nous racontez des... C'est vraiment bien.
Alors, le titre, c'est le début du livre. Hein. C'est dans une sorte de marina, comme ça, avec des bateaux, des voiliers en particulier, suspendus en haut d'un mât, un cadavre tué par une balle en plein cœur ou en plein buste, en tout cas. Et puis de là arrive un début d'enquête avec ce consul, Aurel. On sent qu'il n'est pas totalement épanoui, c'est pour ça que j'ai du mal à voir un côté autobiographique. Il n'est pas bien dans sa peau.
Il n'est pas très heureux d'être au soleil déjà, ouais. Il est toujours vêtu comme si...
comme un père.
Voilà, c'était en hiver, il a un goût un peu douteux pour les vêtements, c'est un ancien pianiste de bar...
Il continue de jouer,
mais c'est des bars plutôt olé-olé, on va dire.
Non, à pute.
Il y a un jeune public, par exemple. Avec
ça, c'est eux qui m'ont appris le mot.
Ça, c'est pour ça, voilà.
En fait, c'est très autobiographique.
Et puis surtout, c'est un super anti-héros, mais il est tellement sentimental. Moi, ce qui me touche avec Aurel, c'est qu'il vénère les femmes, il a envie de pleurer dès qu'il découvre un élément un peu triste d'une enquête. Il est en empathie directe avec la victime, avec sa famille, et c'est avec lui, avec ses yeux, qu'on traverse cette enquête.
Et c'est là où l'enquête est encore plus forte, il se met à la place, soit de la victime, soit de son épouse, soit de sa sœur, et il se projette, et presque il se dit, j'aurais fait quoi, ou si j'avais été eux, pourquoi il se cache, pourquoi il a un hublot particulier dans son voilier, pourquoi il aurait caché l'argent à tel ou tel endroit. On va quand même préciser que comme il est consul de France, et que la victime est française, parce qu'il n'est pas vraiment enquêteur,
chargé de se renseigner. C'est pas son métier, ça que je trouvais amusant, c'est que un consul, au fond, c'est quelqu'un qui s'occupe des Français à l'étranger. Donc, il a à la fois le moyen de savoir beaucoup de choses. Il peut appeler les notaires, il peut appeler l'état civil, il peut savoir des tas de choses. Mais c'est pas un policier. Voilà. Et lui, ce personnage, il a une caractéristique, c'est qu'il ne veut rien faire dans la vie. Il travaille pas. J'ai dû chercher beaucoup, d'ailleurs, pour trouver un personnage, un diplomate qui ne fait rien. C'est compliqué quand même.
Ça se trouve.
Voilà. Et alors lui, il est dans un placard, à vrai dire, parce qu'on lui confie rien.
Oui, c'est ça. Il remplace le consul qui est absent, c'est ça?
Alors voilà, c'est la chance qu'il a, c'est que cette affaire, ce produit, cette affaire qui, elle, pour le coup, est très directement liée à des choses que j'ai vues, parce que ça arrive assez souvent quand même que des citoyens
des
français
crimes.
Se retrouvent dans des situations très dramatiques, voire
mort.
Mort, oui, oui, oui. Et la mort d'un plaisancier dans une marina, c'est quelque chose que j'ai vécu. Enfin, voilà. Donc, alors,
vous avez fait même de la prison pour ça. Si je me souviens bien.
Et alors, ce suspendu de Conakry, pardon, je vais y arriver, à des secrets que l'on dévoile au fur et à mesure que l'on avance dans l'enquête, parce que, alors, d'ailleurs, il appelle pas ça l'enquête,
hein. La procédure.
Oui, parce que s'il dit c'est une enquête, à ce moment-là, on va dire, pourquoi vous faites, vous n'avez pas le droit, il n'a pas le droit, en fait, d'enquêter. C'est ça qui est amusant, c'est que finalement, il fait ça un peu dans les marges, il fait ça parce que ça l'excite une énigme comme ça, ça l'intéresse. Et puis surtout, on accuse quelqu'un à tort, parce que, la police locale, puis la police française qui est là en coopération, bon, pour eux, c'est une affaire simple, quoi. Le type, il est mort parce que, il avait
de l'argent et on l'a volé.
Une copine qui elle-même était en lien avec la peigne locale, il avait de l'argent, on lui a fait la peau pour le voler, c'était simple.
Et donc, on le suspend.
Alors voilà, c'est la question, pourquoi on le suspend? Pourquoi on le suspend? Mais, vous savez, ces enquêtes un peu lointaines s'embarrassent pas de ce genre de détails. Ouais. Bon, là, c'est simple, voilà. Donc, on coffre la fille et on recherche son copain guinéen. Et lui, Aurel, il dit non, c'est pas ça. C'est pas ça. Et alors, quand accuser un coupable, ça, il s'en fiche un peu, mais en revanche, un innocent emprisonné, ça, il ne peut pas supporter. C'est vraiment quelqu'un, parce que c'est son histoire à lui. Hein. C'est quelqu'un qui vient d'un monde. Il a connu le communisme, le Ceausescu, tout ça.
Il vient de Roumanie.
Il vient de Roumanie. L'injustice, il sait ce que c'est. Quoi. Et donc, il ne supporte pas. Et là, il veut savoir ce qui s'est passé. Voilà.
Et il se prend, d'affection aussi pour certaines personnes. Il tombe dans certains pièges aussi. Et comme il fait une procédure et pas véritablement une enquête, il joue de son rôle de consul, même s'il a une petite voiture et qu'il est à l'arrière avec les jambes qui rentrent dans le fauteuil, dans le siège avant, même s'il a un petit bureau austère.
S'il n'est pas charismatique et que personne ne le respecte.
C'est ça.
Tout le monde se moque de lui.
Ouais, sauf les Africains, parce que les Africains se moquent moins de lui que les Français, pour qui c'est un personnage effectivement ridicule, c'est le loser total. Mais les Africains, non, parce qu'ils ont une certaine tendresse pour lui, parce qu'ils sentent. Lui, il est persuadé que c'est parce qu'ils sentent son âme, quoi. C'est quelqu'un qui a quelque chose de généreux en lui. Je l'ai dit devant.
Dont Daniel Morin. Il ne connaît pas le sens du mot.
Non, c'est compliqué. Et
vous dites qu'il est passé pas loin d'avoir de l'autorité en plus. C'est ça qui est pas mal, quoi. Vous dites ça ne s'est joué à pas grand chose.
Oui, exactement. C'est-à-dire que quand on le voit la première fois, on se dit, voilà, ce type-là. Et puis au bout de deux minutes, c'est terminé, quoi. Et
mais il a le titre avec lui. C'est-à-dire que consul de France, ça impressionne.
Ça impressionne, mais on n'est pas impressionné très longtemps.
Non, c'est comme Nagui.
Ça lui parle. J'ai pas de titre.
C'est de France. Tu veux qu'on prenne 5 minutes pour en parler
On peut parler de notre invité.
Bien sûr, avec plaisir.
Mais c'est vrai qu'il est en charge d'appeler la famille de la victime pour prévenir du triste décès soit de son frère, soit de son mari. Il est en charge de représenter la France aussi. C'est ça aussi qui lui donne du pouvoir et une stature, de la grandeur, mais il n'en abuse pas non plus, il cherche pas non plus à impressionner ou à menacer. Il est très respectueux, par exemple, des policiers, de ses confrères guinéens. Quand des choses sont dites lors de certains entretiens, il ne révèle pas trop de choses. Il cherche pas à dire « moi je le savais », par exemple. Il mène son enquête à part, mais il fait pas le malin.
Il fait pas le malin. Il en a pas tellement les moyens, faut dire, parce que comme son aspect et puis ça... En fait, c'est quelqu'un qui ne pèse rien dans le système, il le sait bien. Alors, il est dans les failles de tout ça. Mais si vous voulez, ce que je trouve touchant, moi, c'est pour ça que j'ai choisi un personnage comme ça pour cette série, c'est-à-dire pour raconter ses affaires, parce qu'il y aura en effet plusieurs livres autour de ça avec ce même personnage. C'est que finalement, j'aime bien ces personnages qui sont des losers, comme on dit, des gens comme ça. Mais
qui payent pas de mine, en fait.
Payent pas de mine, on a l'impression qu'ils ont raté tout, etc. Et en fait, ils ont en eux quelque chose qui peut se révéler d'extraordinairement talentueux, créatif, imaginatif. En fait, c'est un type extraordinaire.
Une hypersensibilité qui fait qu'il est en mesure de résoudre justement l'énigme. Sans ça, il ne pourrait pas.
Tout à fait. Et avec une empathie, comme vous dites, elle est là, et une générosité qui fait toute la richesse de ce personnage.
Et c'est surtout tellement bien écrit. Et oui. Mais qu'est-ce que c'est bien écrit? Qu'est-ce que c'est agréable de vous lire dans cette espèce de fluidité? On voit exactement les humeurs, les ambiances, les états d'esprit, les rapports.
Les tableaux, on voit, on est à Conakry.
On y est, ouais. et puis je sais pas, la plume est légère. Les phrases sont à la fois courtes, très explicatives, mais aussi avec un vocabulaire bien choisi qui m'a poussé. Et je le dis avec beaucoup de fierté, à me plonger de 3-4 fois dans des dictionnaires aussi, pour aller voir le sens de tel ou tel mot. Non, mais par exemple, les lampes qui éclairent, j'ignorais, il faut que je
reprenne. C'est le principe de la lampe,
ouais, c'est le truc qui
éclaire. Si vous allez chercher un dico pour ça,
les quinquets,
les quinquets, non,
les quinquets. Les quinquets, je suis passé à côté de quinquets. Et puis, la mèche aussi qui se fatigue a un nom. Dans ces quinquets.
La mèche qui se fait.
Oui, la mèche qui éclaire de moins en moins.
Vous voulez qu'on appelle votre co-auteur ?
Non, mais je suis en train de lui demander de trouver un mot sur les 300 pages. Mais c'est bon, voilà. Enfin bref, il y avait comme ça quelques mots.
C'est du bluff. Lui non plus, il connaît pas les mots.
quelques mots comme ça où je me dis mais qu'est-ce que c'est. Et en fait, ce qui est fort, c'est que une fois qu'on l'a trouvé, d'abord, moi j'adore la démarche d'aller voir dans un dictionnaire le sens d'un mot ou même de son double sens. Mais on voit exactement l'image que vous vouliez donner, parce que c'est vrai que ça aurait été plus simple de dire sur la table il y a des lampes qui éclairent mal. Point. Non. Dès l'instant où vous les décrivez ou les appelez par leur nom,
ça devient plus précis. Les mots, une dimension presque surréaliste, presque poétique. C'est-à-dire même quand on ne connaît pas le sens d'un mot, par exemple quinquet, parce que je trouve que ça. Il y a un son. Par exemple, il y a un écrivain surréaliste, Joseph Delta, que j'aime beaucoup, qui utilise comme ça des espèces de faux mots qui au fond n'ont pas de sens, mais qui par leur son rendent une signification.
C'est une sorte de néologisme.
Mais par exemple, dans mon précédent livre, j'avais utilisé un mot c'était le mot cajoute. Alors, une cajoute, c'est une cabine de bateau. Et ça n'est pas dans le dictionnaire. Et ils se retirent dans leur cajoute. Ils ont un vieux bateau, ça, ils ont la cajoute.
Et un académicien qui se sert d'un mot qui n'est pas dans le dictionnaire.
Non, mais alors,
c'est la provocation. Comme quoi il est curieux.
Finalement, on l'a mis. J'ai demandé à mes potes de le mettre dans le dico quand même.
Parce que le truc est rigolo, c'est que c'est tiré des mémoires donc de Beniowski, qui est un Polonais. Et en racontant ça devant des Polonais, ils m'ont dit, mais oui, mais cajoute, c'est polonais, en fait. C'est un mot polonais. C'est la francisation d'un mot polonais. Donc la cajoute, c'est directement lié. C'est le mot polonais.
Mais en quoi il est plus intéressant que cabine?
Parce que justement, je trouve que ça donne un petit côté cabane, si vous voulez.
C'est ça donne cabine, un côté bois de la cajoute.
En fait, il y a des bouts de bois qui sont mal joints, etc. Donc ils sont dans leur cajoute. Mais on voit bien que c'est un truc où ils vont pas être tranquilles là-dedans. Je ne peux pas en dire plus devant.
D'accord, très bien.
Devant Daniel.
Il a peur de toi, en fait.
Je pense que tu
le fais. Je le vois en embuscade.
Droit de réserve.
Non, c'est vrai. Comment définir l'écriture de Jean-Christophe Ruffin tellement.
Hésitante. Approximative. Avec des mots polonais.
Non.
Européenne.
Ruffin, il écrit par tableau, c'est un peu. Pour moi, voilà, c'est dans cette catégorie-là des auteurs peintres. C'est-à-dire qu'il crée des images, il crée des vues, des visions. Peut-être, c'est pour cela que vous parlez du vocabulaire qui aussi peut avoir un pouvoir évocateur, tout d'un coup, de créer instantanément une vision pour le lecteur. Mais je m'interroge surtout sur le genre policier. C'est la première fois que vous attaquez à ce genre-là. Est-ce que vous, dans votre pratique d'écrivain, vous avez senti une différence, une contrainte? Plaisante ou désagréable?
Non, mais j'ai pas du tout voulu faire un polar, si vous voulez, parce que je trouve qu'il y a dans le polar, la plupart du temps, une dimension noire, une dimension de... C'est pas du tout un livre noir, ça.
Non.
C'est un roman avec un crime et une enquête. Mais finalement, si on regarde bien...
On n'est pas loin du roman policier.
Oui, mais c'est beaucoup plus large. Vous avez des enquêtes dans des romans. Je veux dire, est-ce que Crime et Châtiment, c'est un polar? Non. Est-ce que... Voilà. Ouais. C'est-à-dire qu'au fond, le principe même d'avoir une intrigue qui est basée sur... sur la l'élucidation comme ça d'une énigme, c'est beaucoup plus large que le polar. Et je me souviens quand j'avais ce projet, puis je parlais avec Pierre Lemaître, l'auteur de Au revoir là-haut, etc., qui est vraiment le maître du polar pour moi en France aujourd'hui, m'a parlé de ça et il m'avait dit faut pas que tu fasses un polar, faut que tu fasses un roman avec un crime. Et c'est exactement ça, c'est-à-dire que c'est vraiment un roman comme les autres, je le fais, mais avec un crime. C'est-à-dire voilà, c'est
disons, c'est, vous lui avez confié l'envie d'écrire un roman, vous lui avez demandé des conseils?
Oui, je lui ai dit je suis embêté parce que je maîtrise pas forcément les codes du polar et puis qu'est-ce que t'en penses, que lui est vraiment dans ce ouais. monde et il vient. Alors, lui a fait la démarche inverse, c'est-à-dire qu'il est parti du polar. Donc, il a fait de très très grands livres comme Alex, etc., Robe de mariée et autres. Ils sont des très grands classiques du polar contemporain. Et puis ensuite, il a fait Au revoir là-haut et ses derniers livres, etc. Donc, il passait à la littérature avec le Goncourt et tout. Moi, c'est le contraire, c'est-à-dire que je viens de la littérature et je vais vers le polar. Ce qui est un chemin qui est plus rare parce que, évidemment, il y a des gens qui viennent du polar et qui entrent en littérature. Il y a Daniel Pennac, Tonino Benacquista,
est-ce que les contraintes des codes policiers vous ont aidé à l'écriture?
C'est compliqué.
À réserver quelques révélations au fur et à mesure, à se dire il faut aussi garder un rythme, ce qui est le cas. Moi, j'ai dévoré votre livre à tel point que en avoir presque une nuit blanche pour le finir en disant je veux savoir ce qui se passe, c'était impossible.
On veut le suivant, on veut savoir la suite d'Aurel.
C'est en octobre, oui.
Je vais vous donner mon mail, il faut qu'on le reçoive avant. Ouais.
Et si vous pouviez faire en sorte qu'Aurel tombe amoureux, parce que moi je l'aime tellement ce personnage que j'ai envie qu'il soit heureux.
Moi je suis à la moitié plus ou moins à la fin.
Mais pour le prochain.
Non, mais j'ai eu l'impression déjà qu'avec la sœur.
Avec Jocelyne.
Ouais.
Non, mais il est amoureux, mais il est tellement timide, il est tellement mal à l'aise que c'est pas facile. Et puis en effet, il se fait une idée des femmes qui est tellement inaccessible et tout ça.
Qui est tellement normale, réelle.
Non.
Si, François,
on est toujours dans la fiction.
Non, l'idée, si vous voulez, c'était que je me disais, au fond, dans une enquête, comme ça, c'est pour répondre à votre question sur le polar, dans une enquête, il y a l'aspect superficiel, c'est-à-dire, au fond, les choses simples, le type, il est mort, il y a deux, trois personnes autour de lui, une énigme qui paraît facile à résoudre. Bon. Ce qui est intéressant dans le polar, c'est quand on ouvre ça, qu'il y a un double fond dans la valise et qu'on découvre autre chose.
Mais ça se fait comment? C'est-à-dire, vous faites un plan.
C'est beaucoup plus large.
Non, mais est-ce que c'est comme à l'école quand on faisait des plans pour des dissertes? Est-ce que vous avez fait une espèce
Je fais des actes.
Des actes comme au théâtre.
Comme au théâtre. C'est-à-dire, je dis premier acte, deuxième acte, troisième acte. Parce que je trouve que quand on a un plan trop serré, où tout est déjà prévu, il y a des écrivains qui font ça. Ils ont vraiment un plan détaillé. On n'a plus envie d'écrire le livre, quoi.
Il y a des écrivains qui se laissent emporter par leur personnage aussi.
Moi, je fais pas ça. J'aime bien savoir où je vais, mais je fais des actes. Au premier acte, il va se passer ça. Deuxième acte, se passer. D'accord. Ça, troisième, puis à l'intérieur, voilà. Mais le polar a une... Enfin, le polar, disons, ces livres avec cette dimension d'enquête apportent des contraintes supplémentaires, parce que c'est vrai qu'il y a le rythme, et puis il faut toujours garder une sorte de position du lecteur qui en sait moins quand même que vous.
Que l'auteur.
Et d'une certaine manière, il y a toujours... faut toujours le tenir un peu à distance, c'est-à-dire l'égarer, voilà. Pour qu'il ait envie de tourner les pages. Alors, apparemment,
ça marche extraordinairement bien. C'est chez Flammarion, le nouveau Jean-Christophe Ruffin. Il faut absolument que vous le lisiez. En plus, ça se lit extrêmement vite et d'une manière très agréable, Le Suspendu de Conakry. J'espère, Tom Villa, que vous avez bien compris pourquoi Jean-Christophe Ruffin était là.
Sinon quoi?
Sinon, j'ai un petit légume dont nous parlerons demain. Déjà, mais que j'ai là.
Qu'on nous a tous envoyé.
Qui a un petit goût de concombre.
Qui a un petit goût de concombre et qui a des cornes que je peux vous planter dans l'œil.
Bon, alors j'ai très bien compris. donc on refait rapidement le pitch de Jean-Christophe Ruffin. Le livre s'appelle Le Suspendu de Conakry. Donc, le pitch rapide, c'est un diplomate placardisé qui enquête suite à la mort suspecte d'un Français. Voilà, donc en gros, il se fait un peu chier dans son boulot. Il dit tiens, si on jouait à Colombo. Et en fait, il trouve un cadavre suspendu au mât de son bateau. Voilà. Toi, tu trouves
un mec suspendu à ton mât de bateau. Bon, déjà, faut avoir un bateau. Qui a un bateau autour de la table? Capital, ils l'ont pas trouvé, Nagui? Non?
Non, j'ai pas de bateau. Surtout pas.
Non, je le dis, c'est un, voilà, c'est un petit mât, un petit trois mâts fin comme un oiseau, et voilà. Non, mais c'est vrai, tu trouves un mec.
C'est où?
Non, Taratato. Et tu trouves un mec pendu à ton bateau, c'est pas le même dimanche. Là, tu peux remettre la bouteille de rosé au frais, on la boira un autre jour. Tu sortez les voiles, bah, attendez, il y a un cadavre qui bloque, bah, sortez le moteur, on décrochera plus tard, sinon on va être tanké. Les petits mouchoirs de bientôt sur vos écrans. Voilà, ça peut être un truc. Mais non, c'est vrai, ça doit faire bizarre. T'sais. Tiens, qui a déjà découvert un cadavre autour de cette table? Non, personne. Non, mais je sais pas moi comment je réagirais.
Quel malheur.
On n'est pas formé pour découvrir un cadavre. Quand tu passes ta formation au geste de premier secours, on t'apprend pas à découvrir un cadavre. Alors que franchement, le massage cardiaque et le point de compression, tout le monde l'oublie au bout de 3 semaines. Alors comment réagir quand on découvre un corps inerte? Si t'es youtubeur et que tu t'appelles Logan Paul, tu sors ta caméra et tu cherches à faire le buzz. Mais si t'as pas de chaîne YouTube, tu sais pas. Tu vois, les séries télé, elles te font croire que c'est facile, alors que pas du tout. C'est toujours la même chose. Le mec, il arrive, il voit le corps. Bon, déjà, ça lui fait ni chaud ni froid. Moi, je vois un mec se tord la cheville déjà. J'ai du mal à supporter. Voilà. Après, il pose les deux doigts dans le cou. Hop, en 2 secondes, c'est bon. Le verdict est tombé, il est mort. Comment ils font? Moi, j'arrive même pas à savoir si quelqu'un a de la fièvre. Oui, t'es chaud, mais pas si chaud que ça. Enfin, je sais pas. Je prends un thermomètre. Franchement, c'est plus rassurant. Mais moi, je saurais même pas qui appeler si je trouvais un mort. Les pompiers, bah, plus la peine. Le SAMU, pareil. Les mecs, ils vont pas se déplacer alors qu'il y a plus rien à faire. T'invites pas Morin à l'apéro si t'as pas eu le temps d'aller chez le caviste. Tu vois, c'est pareil.
C'est clair. J'espère.
La police, pourquoi pas. Mais attention, faudrait pas qu'ils crois que c'est toi le tueur. Parce que moi, par exemple, quand j'ai pas fait un truc, j'ai quand même une tête de coupable. Tu sais, à l'école, quand j'étais petit, il y avait un gamin qui se faisait échouer à sa trousse. La prof, elle arrêtait le cours pour retrouver le coupable. Évidemment, c'était pas moi, mais j'avais toujours l'impression qu'elle pensait que c'était moi. Ouais, mais c'est quand même con de faire 20 ans de prison juste parce que tu gères mal tes émotions. Alors, bon, c'est la fameuse sinon technique de... plus c'est gros, plus ça passe, tu tues le mec, t'appelles toi-même les flics pour leur faire croire que c'est pas toi. C'est un peu comme si Balkany allait aux impôts pour dire qu'il a décelé une petite erreur dans sa déclaration de patrimoine. Oui, mais vous avez oublié de me décompter la part de mon fils. Voilà. Oui, il a 45 ans, mais enfin quand même. Vous avez... Parce que si après la police a un doute, faut trouver un bon alibi, tu vois, tu trouves le gars pendant une balade en forêt, ça va, ça passe, ça écarte les soupçons. Par contre, si tu dis à la police que t'as trouvé un corps dans ton coffre de voiture et qu'en plus, il ressemble étrangement à ta femme qui venait de contracter une assurance vie, ça devient compliqué. Vous savez quoi, Jean-Christophe? Je pense que le mieux dans la vie, finalement, c'est de pas avoir de bateau. Et de ce côté-là, je suis pas mal parti.
Merci, Tabula.
La bande originale, Nagui, sur France Inter.
Jean-Christophe Ruffin signe le suspendu de Conakry. Vos oreilles, les gars, ont sifflé quand on vous a dit qu'il revenait dans l'émission.
Forcément, quand je pense à vous, Jean-Christophe, je pense à vos engagements, à vos livres. Mais j'entends aussi une voix qu'on a entendue ici, autour de cette table, il n'y a pas longtemps. Un homme qui ne voulait pas vous décevoir et qui vous a même vu un peu pleurer.
Il est passé, Jean-Christophe, il a vu le film il y a un mois, on lui a présenté, donc il était très ému, et ça fait plaisir de voir l'écrivain ému comme ça, quoi, quand il voit son... il était très ému parce qu'il dit, ouais, c'est la première fois que je vois des images sur un de mes livres, donc il a eu sa petite larmichette.
Nicolas Duvauchel,
voilà, qui parlait à ce micro de Collier Rouge, réalisé par Jean Becker. Vous avez participé au scénario, vous avez été le co-scénariste même.
L'adaptation de son roman.
De l'adaptation de votre propre roman. Alors, Rouge Brésil avait déjà été adapté en réalité en téléfilm, donc c'était pas la première fois vraiment que vous...
Là, il avait pleuré pour d'autres raisons.
Alors voilà, justement, qu'est-ce qui vous a ému?
Dans le collier rouge. Non, bah déjà quand je suis allé sur le tournage, j'ai trouvé ça absolument incroyable parce qu'ils avaient reconstitué. Je suis allé dans Charente là où ils avaient reconstitué des tranchées. C'est-à-dire des.
On rappelle que ça se passe pendant la Première Guerre mondiale.
Oui, alors ils avaient creusé des je sais pas plusieurs centaines de mètres de tranchées avec les poilus qui avaient tous l'impression. Enfin, c'était des figurants non professionnels, mais ils avaient l'impression de faire la guerre. Quoi. Ils étaient moi, j'ai assisté à un assaut. Comme ça, entre les avec une sortie de tranchée incroyable, avec les rampes de pluie, vous savez, de fausses pluies, comme ça. Et les types avec des baïonnettes. Il vous a raconté, Duvauchel, qu'il y en a un qui a pris une baïonnette dans les fesses, d'ailleurs.
Alors, non, il ne nous l'a pas dit.
En courant, en sortant de la tranchée, c'était des vraies baïonnettes. Il y en a un qui a pris la baïonnette dans les fesses. Et donc, ils l'ont amené aux urgences d'Angoulême. Quand vous arrivez aux urgences d'Angoulême en 2010,
oui, c'est compliqué à justifier.
En poilu en disant j'ai pris une baïonnette dans les fesses.
Je jure, monsieur, je vous jure que j'étais dans une tranchée.
Oui, c'est ça, vous allez
assez Nicolas Duvauchel nous avait simplement parlé du chien, de la difficulté, voilà.
Oui,
du chien, mais pas la baïonnette.
Ils ont un problème aussi avec le chien, parce que le chien,
Enfin, les deux chiens, en l'occurrence, pour le film, chiens, qui n'étaient pas très obéissants. Ouais. Voilà, le alors, moins obéissant était le...
Bah parce que le chien devait prendre le figurant sur le cou, au cou. Il devait le mordre au cou. Il avait mis un truc en Kevlar. Puis le chien avait mal travaillé le rôle, je ne sais pas. Il a pris le bras. Et donc, pareil, aux urgences stock. Donc, ils ont été habitués à Angoulême. Ils n'ont pas arrêté de voir des poilus arriver. Mais c'est très impressionnant de voir ses propres personnages comme ça.
Qui prennent vie.
Ouais, ouais.
Philippe Labreau nous avait dit à ce micro que lorsqu'un roman est adapté, c'est forcément une trahison.
Oui, mais faut l'accepter.
Parce que le physique des personnages, la voix, ce qu'on a tous vécu la première fois qu'on a vu des Astérix ou des Lucky Luke, c'est-à-dire qu'on les a tellement lu les bandes dessinées que d'entendre la voix d'un personnage, alors que chacun s'était fait, s'était construit ce personnage.
Vous n'imaginiez pas Cluzet.
Non, mais parce que Cluzet, bon, effectivement, moi je trouve que Cluzet a vraiment très 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 bien interprété ce rôle, mais c'est vrai qu'il en a fait autre chose. Bon, moi, c'est sans doute de tous les personnages celui que j'avais le moins vu, et probablement parce que c'est celui auquel je m'identifiais le plus. C'est très curieux, quand on écrit un livre, il y a toujours un personnage qu'on ne voit pas, et en fait, c'est soi-même, quoi, en général.
Et là, c'est Aurèle, dans le suspendu de
Conakry. Oui, peut-être, oui. Oui, moi je ne me suis pas suspendu par un pied, mais c'était plutôt Aurèle. Mais c'est vrai que Écluzet a fait un très très boulot. Et je veux dire, ça a été. Non. Et, alors, ils m'ont présenté en disant c'est l'auteur. Alors il y avait figurant, le gars qui était là, qui a dit mais l'auteur de quoi? Alors on a dit de l'histoire. Ils ont dit mais l'histoire elle est vraie. C'est ça qui était formidable. Ils étaient persuadés que c'était vrai. Alors, il y en a qui sont venus me voir après en me disant, mais la fille, qu'est-ce qu'elle est devenue après la guerre? Elle n'existe pas. C'est étonnant. C'est formidable. C'est-à-dire qu'ils se sont totalement appropriés l'histoire.
Est-ce que vous pourriez, comme Marc Duguin, devenir un auteur qui passe à la réalisation? Parce que dans l'écriture, on l'a dit, il y a quelque chose de très visuel, de très scénarisé, même c'est ce que vous me disiez pour Collier Rouge, au sens où le travail d'adaptation, vous l'aviez quand même beaucoup amorcé. Votre livre était déjà prêt pour être adapté. Est-ce que ça vous tenterait de passer derrière la caméra?
Non, je crois que c'est pas forcément très concluant. Il y a pas mal d'amis, Philippe Claudel, Jean-Christophe Granger, Marc Duguin, effectivement, qui ont tenté cette expérience-là. Après, il se passe deux choses. Soit ils deviennent cinéastes et pratiquement ils ne font plus que ça. Oui. Ou scénaristes. Par exemple, Didier Decoin est devenu pratiquement que scénariste. Il a écrit plus rarement des romans maintenant, Louis Gardel. Ou alors finalement, ils reviennent à l'écriture, mais avec une impression un peu de d'échec.
D'avoir raté quelque chose.
Moi, je préfère faire mon métier, j'en ai fait beaucoup des métiers, mais ce que je pense, ce dans quoi je suis à l'aise, c'est l'écriture du roman. Voilà. Après, à partir de là, je trouve bien que quelqu'un s'en saisisse, puis fasse autre chose. Voilà, et transforme les choses au besoin, etc. Là, j'ai travaillé avec Jean Becker et Jean-Loup Dabadi aussi pour le scénario. Bon, c'est très intéressant. Je les observais d'ailleurs plus que je n'intervenais parce que, au fond, ils ont fait ça très bien eux-mêmes. Mais j'ai appris des tas de choses. Mais je ne me vois pas derrière une caméra, non, pas du tout. Pour l'instant, non.
Et vous pensez à Aurèle au cinéma?
J'aimerais bien, c'est un héros de série. Alors, si vous voulez, soit il y a quelqu'un qui s'intéresse de faire quelque chose de récurrent
une série
comme ça, quand il y en aura plusieurs, parce que là, les prochains vont paraître avec toujours ce personnage. Moi, je pense que le fait de le balader, si vous voulez, c'est intéressant parce qu'il fait une carrière pourrie, le pauvre Aurèle. Hein. C'est-à-dire que c'est vraiment le type qui n'y arrive pas. Donc, évidemment, le Quai d'Orsay ne peut pas le mettre à la porte, qui est titulaire. Alors, on le met d'un placard à un autre placard. Donc, il va aller s'attendre à ce qu'il soit toujours dans des pays difficiles et dans des postes très modestes.
Oui, et pourtant, il risque de prendre aussi de l'assurance au fur et à mesure qu'il résout des énigmes.
Oh, de l'assurance, là, pour... oui, mais...
Mais moi, je trouve déjà qu'à la fin du roman, il est plus fort qu'au début.
Oui, il est plus fort, mais il n'est pas mieux noté. Au contraire, il a fait... Au deuxième livre, il va se retrouver dans un poste aussi difficile. Et voilà, donc, moi maintenant.
Mais toujours en Guinée où il
non,
est...
non, non, non.
Il va voyager.
Oui, oui. D'accord. Ah, bah oui, on le mute.
C'est le suspendu de Dakar.
Je crois que j'ai oublié quelque part, il y a un meurtre.
Non, non, mais ça sera très différent. Mais alors, du coup, maintenant, quand je voyage, par exemple, récemment, là, j'étais au Sultanat d'Oman, je me disais, tiens, mais je vais mettre Aurel là.
Il y a de quoi faire.
Il y a de quoi faire. Et alors, peut-être que ça peut intéresser quelqu'un, j'en sais rien. Mais moi, je ne me pose pas ces questions. Vous savez, on a une liberté quand on écrit un roman qui est formidable. Pour le Collier Rouge, c'était amusant parce que il y avait des scènes de bataille. Alors moi, dans mon coin, j'écris ça. Alors je mets 500 Russes, vous voyez, d'un côté.
Ça coûte zéro.
350 anamites. Oui. Alors après, il y a le producteur qui dit non, attendez, on va mettre 2 Russes. On va mettre 4 anamites, s'il vous plaît.
C'est bon.
Est-ce que l'écrivain, il fait ce qu'il veut, quoi.
Jean-Christophe Ruffin signe Le suspendu de Conakry, c'est chez Flammarion. Voici l'humeur de Guillaume Mogui. Voilà.
Bonjour.
Bonjour les amis.
Bonjour.
Alors, si je vous dis Tanguy Pastureau, vous me répondez Georges Pompidou, la Bretagne, la haine de l'autre et tout. Mais c'est bien, vous êtes réactif. Comme quoi, on a beau médire sur les amphétamines quand même. Tout ça parce que ça donne envie de faire du karaoké. En attendant, pour une fois, vous êtes concernés parce que je raconte. C'est pas mal cette drogue, faudrait en donner au public à l'occasion. Non, la beuh, c'est bien aussi, mais ça rend assoupi. Tanguy Pastureau, ce n'est naturellement pas que ça. C'est aussi une passion quasi militaire pour les robots sexuels. C'est notre Denis Brogniard à nous, quelque part. Comme il peut tester les prototypes, en fait, avant tout le monde, il a tendance à en parler souvent. Je sais pas si vous avez remarqué. Mais par contre, je pense que Tanguy n'a jamais évoqué le robot sexuel Henri. Pour être sûr, je me suis refait ces 900 dernières chroniques, même les bonnes, hein, même celles d'RTL et tout. Et on a fait pas une trace. Henri, et je cite l'internet mobile prépayé 2 gigas, 3ème gratuit. C'est le premier robot sexuel destiné aux femmes et capable de faire de l'humour. Là, il y a Leïla qui fait. Mais qu'en est-il de son sanskrit? Est-il capable d'une exégèse de l'œuvre prise au nom de la rose d'Umberto Eco en cyrillique? Non, Leïla, non. C'est avant tout un robot sexuel. Soyez patiente. La poupée gonflable Jean-Paul Sartre avec calvitie partielle, alcoolisme social et regard d'Armand Riquet. C'est pas tout de suite, c'est la prochaine génération. Patience, Leïla. Henri lui répond à un fantasme féminin plus commun, 1m80. Des abdos saillants et les yeux ténébreux.
Pourquoi tu te touches quand tu parles comme ça?
Henri, il a les yeux ténébreux de quelqu'un qui est positif dans la vie mais qui porte un lourd secret mais qui pourrait te le révéler après, disons quoi, 2 Bacardi briseurs. Et puis surtout, Henri, c'est les performances sexuelles que ses concepteurs qualifient de surhumaines. Là, il est fait fort bien, Ernesto, mais parlez-nous un peu du prix de cette machine.
Est-ce qu'avec
mes tickets restaurant, parce que là, il me reste 2 carnes. Eh bien, Leïla, pour 11 000 dollars, figurez-vous, vous avez la version de base d'Henri. Pour 12 000, il anticipe les grèves SNCF. Pour 13 000, il te cite tous les gagnants de C'est qui, encore qui connaît les paroles de cette chanson, l'émission de Nagui. Pour 14 000, il te donne le vrai nom de l'émission.
C'est quoi le titre?
Pour 15 000, le robot, c'est Nagui. Et voilà. Morphologiquement, on n'est pas loin d'ailleurs, puisqu'Henri fait 40 kilos. Et que sur le plan mécanique, son zgeg n'a pas encore la capacité de bouger. On est vraiment sur un hommage, Nagui. Bon, c'est droit d'auteur, utilisation de l'image, c'est dommage. Là, ils l'ont appelé Henri pour brouiller les pistes à cause d'Henri Krasuki. Mais c'est à vous. En revanche, comme précisé plus tôt, ce robot social est doté d'une espèce d'intelligence artificielle qui lui permet d'avoir des échanges culturels. Ah, on peut regarder Sophie d'avant, plus tard, Henri. Mais il peut même sortir des phrases romantiques et tout. Des chansons d'amour et tout. Des poèmes, il peut faire des poèmes. On n'est pas sérieux quand on a 17 ans. Un beau soir, font un débat. Oh, ta gueule, Henri. Ta gueule, maintenant concentre-toi 2 secondes, appuie ici. Une mathématicienne d'Harvard a même déclaré que ce robot sexuel pousserait peut-être les hommes à s'améliorer et à se demander ce que les femmes veulent vraiment. Vous dites optimisme, je dis pourquoi pas. En plus, Henri est capable de faire des blagues, ce robot, vraiment. J'ai vu une vidéo où il dit « Que fait un nuage quand il a une démangeaison ? Il trouve le gratte-ciel le plus proche. » C'est pas mal. Ça me fait un peu mal au cœur de savoir qu'il y a des robots qui vont ken grâce à cet humour-là. Ouais. Mais enfin, si c'est ça le futur de l'humour, j'arrête de me casser la tête à trouver des vannes sophistiquées sur Daniel Morin. Je veux plus simple. Qu'est-ce qu'il y a des poils et qui puent? Voilà, c'est réglé. Non, mais c'est vrai.
Encore Daniel Morin.
C'est réglé, une devinette simple. Non, mais sérieux, l'intelligence artificielle pourrait quand même aller plus loin dans l'élaboration des blagues, quoi. C'est vrai. À quand le robot qui prendra des vrais risques au niveau de l'humour? Vas-y, Henri, fais-nous marrer avec les copines. Ok. C'est un sujet super sensible, mais je l'attends quand même. Qu'est-ce qu'on dit à une femme? Ok, c'est pas vrai. Jess, quand tu retournes dans ton étui. Voilà, dans 20 minutes, dans un DHL. Alors, non, mais ça peut paraître trivial comme info, mais dans un marché quand même qui est dominé à 95%, pardon, par les hommes étant Guy Pastureau, c'est une petite révolution. Moi, j'ai bien réfléchi. Je vais me l'acheter, je crois. On va la jouer en binôme. Hein. Lui fera l'amour et moi, je ferai les blagues. Allez, bonne émission.
Merci, Guillaume Auguste.
La bande originale.
Le retour de la vengeance de Tanguy Passion, ça sera tout à l'heure, autour de midi. C'est bien, ça tacle les uns avec les autres. Mais tout ça dans un très bon esprit.
Ah, bien sûr. Une
camaraderie,
évidemment.
Toujours. Jean-Christophe Ruffin signe le suspendu de Conakry. Vous avez parlé d'une série autour de ce personnage Aurel. Vous l'aviez déjà en tête, la notion de série, avant de l'écrire, ou vous êtes pris au jeu et au plaisir de l'écrire en disant... Il y a à suivre.
Je voulais faire un héros récurrent, comme on dit. C'est-à-dire, et je me souviens d'avoir parlé de ça il y a très longtemps avec Gérard Devilliers. Parce que vous savez pas, mais je vous raconte, mais Gérard Devilliers cherchait quelqu'un pour le soulager de poids de SAS. Il m'avait proposé de travailler sur sa plume pour SAS.
Au black.
Il m'avait dit, du coup, moi, je suis enchaîné dans une mine d'or. Il faisait 4 livres par an.
C'est très sexe, hein, et, de mémoire SAS.
Oui, mais c'était un personnage. Moi, je l'aimais beaucoup. Il était très, très drôle.
Et oui, c'est très sexe.
Il ne faut pas sous-estimer Jean-Christophe, peut-être que...
Non, je ne sais pas. Il n'y a pas beaucoup de sexe dans le.
Non, dans le suspendu.
Ça t'a manqué
Non, je dis, il n'y a pas beaucoup de sexe. Non, c'est pas un SAS, quoi.
Mais en fait, il avait. Villiers, il avait des gens qui rajoutaient le sexe, si j'ose dire. Enfin, c'était. Oui, ils étaient plus.
Henri.
Il y avait des robots. Et il m'avait dit, tu veux faire un héros récurrent? Puis il m'avait dit, moi je récure depuis 30 ans et j'en peux plus. Et c'est vrai que le héros récurrent, c'est quelque chose de très attirant pour un écrivain. Parce que
mais
c'est
un piège.
Alors c'est un piège. Moi, je vais l'utiliser, ce Aurel, pour parler du présent. Voilà. C'est-à-dire que je trouve que c'est une sorte de petit robot, pardon, il est moins sexuel que Roger, là, mais...
Roger, c'est la version d'après.
Je veux dire, il faut mettre du chien avec Roger.
Mais on peut le balader dans le monde contemporain, c'est intéressant, parce qu'il y a toujours cette question, est-ce qu'on parle directement de ce qu'on a vu? Et moi, je suis toujours gêné avec ça, parce que je suis venu à l'écriture... Après avoir été médecin, un médecin, il prête le serment d'Hippocrate. On nous fait jurer à la fin de nos études qu'on ne révélera pas ce qu'on a vu quand on entre dans les maisons. J'ai toujours du mal, moi, à raconter quelque chose que j'ai vu directement. C'est-à-dire dire, voilà, bah, hier j'ai fait ça. Ouais. Voilà. Et tandis que par le biais de la fiction, et avec un personnage comme ça récurrent, on a une possibilité de, au fond, de le balader comme un...
Ouais, et puis d'être ancré dans une actualité, voilà, c'est ça.
Parce que c'est pas gratuit. Souvent, pour moi, l'énigme, etc., bon, c'est un prétexte, mais c'est pas gratuit. C'est un livre que j'ai écrit pour m'amuser, j'espère qu'il amuse les gens qui le lisent, mais c'est pas gratuit. C'est-à-dire que derrière, quand il creuse
la toile de fond,
ce qu'il va découvrir, c'est pas gratuit. C'est une description
du
monde d'aujourd'hui.
C'est une réalité économique, presque, j'ai envie de dire, politique et sociale.
Exactement. Et avec des détails, en fait, sur la façon dont on s'occupe, notamment dans ces ports d'Afrique de l'Ouest, de tous ces trafics, etc. Enfin, je n'en dis pas plus, parce que ça perdrait un peu de sel de livre. Mais tout ça est très, très documenté, parce que ça, là, pour le coup, je le tire directement de l'expérience que j'ai eue comme ambassadeur. Et donc voilà, c'est à la fois il y a cet aspect de divertissement, ça c'est très important, parce que moi je pense qu'un livre doit d'abord vous conduire à tourner les pages et on doit entrer dans le livre, il y a un moteur romanesque puissant, mais au service de quelque chose, c'est pas gratuit.
On va justement demander tout à l'heure à Franck Renaud, qui est journaliste, rédacteur en chef de la revue Place Publique Nantes-Saint-Nazaire, et qui a été auteur en 2010 des diplomates derrière la façade des ambassades de France aux éditions du Nouveau Monde, de venir nous expliquer d'ailleurs le rôle, la présence de ces diplomates et finalement leur place et leur position dans la société dans laquelle ils évoluent, ce qui est le cas de ce consul qui s'appelle Aurel, le nouvel héros.
Qui roule les airs.
On doit dire nouveau héros. Ou le nouvel héros. Ah oui, il n'y a pas de liaison.
Non, il n'y a pas de liaison, c'est un H aspiré.
Alors que héroïne, non.
Parce que c'est au féminin. Qu'est-ce que je voulais dire?
La nouvelle héroïne?
Non, tu dis un héros et une héroïne. Le H n'est pas le même.
Ou deux héroïnes, mais c'est pas la même.
Non, le H n'est pas le même entre héroïne et héros.
Et là, c'est aspiré aussi.
une héroïne, il n'y a pas de problème de...
C'est parce qu'on ne fait pas liaison, c'est féminin.
Si vous faites les héroïnes, vous dites les héroïnes ou
les héroïnes, oui, c'est ça. C'est là où vous pouvez l'utiliser. Oui.
Vous dites les héroïnes.
Les héroïnes.
Et pas les héros.
Non. Si on continue à l'émission.
Ouais.
Excuse-moi, j'ai un académicien, j'en profite pour lui demander la différence qu'il y a entre le H muet et le H aspiré. Et au début, la liaison se faisait, mais c'est pour l'académie a décidé de le rendre.
Parce que les zéros, c'est un peu.
Exactement. C'est uniquement pour la raison du pluriel que le H masculin était aspiré et pas le féminin. J'aime ce regard de Merlan mort dans la tête.
Vous m'aspirez tellement,
de Daniel Morin, je vois. Voici la bande originale de Jean-Christophe Ruffin. Il y a beaucoup de musique d'ailleurs dans votre roman, on va en parler tout à l'heure, mais dans votre vie aussi, en 78, vous écoutiez...
À force de forcer ma force à cet effort, pour faire bouger mes doigts, pour faire vibrer mon corps.
Johnny, vous écoutez cette musique, vous écoutez Johnny, vous pensez à quoi ?
Bah, je pense à lui d'abord, parce que c'est vrai que je fais partie de ceux qui ont été tristes de le voir disparaître. Puis il a accompagné toute ma vie. Moi, je veux dire, j'ai toujours connu Johnny, comme tout le monde.
On est même, j'imagine, encore plus triste de ce qui continue de se passer après sa disparition.
Oui,
parce
mais
que
ça. Vous savez, alors là, dans le domaine des ayants droit, des héritages, des droits d'auteur, etc., c'est tellement, il y a tellement de choses sordides que...
Non, mais c'est triste pour l'image de Johnny,
bah,
voilà.
Oui, bien sûr. Bien sûr, mais... Enfin,
quelle que soit la vérité.
Faut distinguer l'artiste de l'homme, à la limite. Voilà, c'est l'artiste qui compte, l'homme, sa vie, ce qu'il en a fait.
Mais tous les artistes, et tous les grands artistes, et tous ceux qui ont une postérité comme ça, artistique, importante, sont entourés toujours de bon, il y a des jeux d'intérêt, des choses. Voilà. Bon,
vous en êtes où, vous, Jean-Christophe?
Je suis pas mort, c'est ça le problème.
Non, mais est-ce que...
Non, mais je sais que. Voilà, c'est vrai pour tout. Vous regardez. Enfin, citer personne, mais c'est vrai qu'il y a des auteurs, par exemple, je parle des écrivains, là, mais les auteurs les plus lus ou les plus traduits, je pense, Saint-Exupéry, etc. Ben, quand on regarde un peu autour ce qui se passe, il y a beaucoup de jeux d'intérêt.
Il y a des intérêts, ouais.
Quand on voit l'entourage de Michel Drucker, là, qui se rapproche de plus en plus, on se dit que, ouais, notamment Nagui, qui est très proche en ce moment.
Tu ne respectes rien.
Tout proche.
Johnny, j'ai oublié de vivre en 78, et c'est l'engagement de Jean-Christophe Ruffin.
Et vous allez en Érythrée pour Médecins sans frontières. À cette époque-là, le pays est complètement ravagé par la guerre. Qu'est-ce qui fait que vous avez choisi l'Érythrée?
Ben, j'ai pas choisi, on m'a envoyé.
On choisissait pas du tout.
Non, j'ai pas choisi. On m'a
c'est
dit,
pas voilà, une agence de voyage en fait.
Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut avoir aussi une connaissance et dire je vais mettre au service cette connaissance.
C'est le contraire, c'est-à-dire, la connaissance, je l'ai eue à partir de là. C'est-à-dire que je commençais à m'intéresser à cette région du monde, à ce pays, parce que l'Érythrée n'était pas encore indépendante à l'époque, c'était l'Éthiopie en fait. Et donc, j'ai commencé à m'intéresser à cette région à ce moment-là, parce que je l'ai découverte à ce moment-là, en y allant vraiment au départ par hasard.
Et qu'est-ce que vous y avez vécu en termes de vie parce que c'est ça votre itinéraire à vous, il est tellement riche, qu'est-ce que vous retenez de cette période-là?
Et puis l'engagement dans ces endroits-là est souvent synonyme de risque aussi.
Oui, mais c'était un premier contact avec la guerre. Parce que c'était avant la grande famine éthiopienne de 84, ça se passait pendant la guerre. Et je me souviens que, par exemple, dans la journée, on restait sous le couvert des arbres, en fait, et parce qu'il y avait des bombardements qui ne se produisaient que dans la journée. Puis le soir, comme les avions éthiopiens ne volaient pas la nuit, donc le soir tout s'allumait et toute la vie de ces maquis se faisait la nuit. Quoi. C'était absolument extraordinaire. Mais dans la journée, par exemple, on regardait s'il n'y avait pas un bout de chocolat, c'est un bout de papier d'aluminium qui pouvait attirer l'attention, parce que ça pouvait être mortel. Quoi. C'était le premier contact. C'est curieux parce que la guerre pour moi c'était de l'ordre du passé. J'en avais entendu évidemment beaucoup d'histoires. À travers mon grand-père, à travers toute l'histoire de la famille et tout ça. Mais la guerre, pour notre génération, c'était loin. Aujourd'hui, elle se rapproche peut-être avec des faits de violence ici. Mais à l'époque, non, la guerre, c'était loin. Là, ça a été le premier contact.
En 1986, vous écoutiez Eros Ramazzotti.
Il y a un petit jeu qui s'installe entre Daniel et Jean-Christophe, je sais pas. Qui va tirer le premier?
Tu veux dire quoi? Tu as du mal à imaginer Jean-Christophe Rupin chez lui, en train de danser sur Eros Ramazzotti?
J'avoue que je suis pas loin d'avoir du mal.
Si, moi, dans une salle de bain, c'était le slow de l'époque. Et c'était le slow de cette année-là. Voilà. Eros Ramazzotti, bon, moi, je parle italien, j'aime beaucoup l'Italie. C'était le. Voilà. Mais bon, pas plus que ça. Daniel, vous pouvez vous calmer.
Non, on vous juge pas. Vous inquiétez pas, c'est très bien. Et en 86, vous êtes de retour en France. Vous êtes à Paris, diplômé de l'Institut d'études politiques. Qu'est-ce qui fait que vous revenez, vous relancez dans des études, et ensuite vous allez devenir conseiller du secrétaire d'État aux droits de l'homme?
En fait, l'humanitaire, c'était une manière pour des médecins, des jeunes médecins comme on était, de se retrouver projetés dans le monde, dans des conflits, des guerres, des endroits auxquels on n'était pas du tout préparé. Ouais. Si vous voulez. Moi, quand je suis rentré, je me suis dit, faut essayer d'y comprendre quelque chose. C'est-à-dire, c'est bien gentil de se retrouver dans les maquis d'Afghanistan, du Cambodge, etc. Mais j'avais aucune connaissance de tout ça. Donc, je suis allé voir à Sciences Po, puis ils prenaient toujours ils aiment bien prendre des gens autour extérieur, comme ça. Il y a toujours un pompier, un séminariste, enfin, un médecin.
La société civile.
Voilà. Et moi, ils ont accepté de me prendre en deuxième année. Ils m'ont pas vu beaucoup d'ailleurs. Et là, j'ai découvert que finalement, de toute façon, ces conflits-là, personne ne s'y intéressait.
Vous avez retrouvé dans votre session, on dit pas cuvée hein, pour la Sciences Po.
Millésime.
Voilà. Vous avez retrouvé des politiques reconnues aujourd'hui.
Pas tellement, parce qu'en fait.
C'était une sale année donc.
Non, mais je sais pas, j'en ai pas gardé un souvenir, non.
C'est pas forcément un Sciences Po.
Et aucune amitié.
Pas beaucoup.
C'était peut-être déjà honnête, ils n'ont pas fait carrière politique.
Non, mais en tout cas, c'est à ce moment-là que vous dites il faut s'impliquer davantage, comprendre. Vous devenez conseiller quand même d'un secrétaire d'État, c'est pas rien. Donc ça veut dire que c'est aussi vers ce chemin-là, vous n'allez pas retourner dans un cabinet classique, quoi.
Non, parce que c'est vrai que beaucoup de ces humanitaires de cette époque sont passés à la politique directement. Oui. C'est-à-dire que ce soit Maluret, Emmanueli, Kouchner, bien sûr. Et donc, moi, j'ai accompagné ça, mais sans être moi-même élu, quoi.
Justement, on va s'intéresser à la vie de diplomate avec l'auteur de Diplomate derrière la façade des ambassades de France aux éditions du Nouveau Monde. Franck Renaud, merci de venir à ce micro. Franck,
bonjour, merci.
Bonjour. Comment devenir diplomate en passant par Sciences Po? C'est ça le cursus?
Oh, y en a pas mal qui passent par Sciences Po, mais on va dire que les deux voies royales, il y a bien évidemment l'ENA, hein, l'École Nationale d'Administration, et puis l'autre voie, c'est un concours un peu interne au Quai d'Orsay, c'est les cadres d'Orient. C'est des gens qui maîtrisent des langues rares, en sachant que pour le Quai d'Orsay, les cadres d'Orient, les langues rares commencent en Allemagne avec l'allemand. Dès qu'on maîtrise l'allemand, on peut être cadre d'Orient.
Le cursus d'Orel, c'est ça, c'est une espèce de piston.
Non, mais lui, il a fait un tout petit concours.
Oui.
Parce que ça, vous parlez des concours de cadre
de
A,
cadre
c'est-à-dire
A, ouais.
Futurs ambassadeurs. Mais Orel, vous avez bien d'autres concours qui sont de grade inférieur et vous pouvez entrer par des petites portes. Et c'est ce qu'a fait Orel. Hein,
un peu pistonné, on va dire.
C'est-à-dire que son beau-père, pendant son bref mariage, avait un peu des relations et lui a permis de passer un petit concours.
Est-ce que être diplomate, c'est une forme de pouvoir? Ils ont un petit royaume dans leurs ambassades, les ambassadeurs, les consuls?
Bon, ça dépend de la personnalité de l'ambassadeur, mais historiquement, comme c'était les envoyés du roi, il peut y avoir un aspect un peu monarque. Et puis surtout, on est loin de la France et loin, on va dire, du contrôle que peut exercer le Quai d'Orsay les ambassades.
Sur les notes de frais. Ils ont leur voiture, leur chauffeur, ils sont logés, nourris, ils ont des...
L'ambassadeur a une résidence. Alors, je connais pas celle de Dakar, je sais pas si elle était jolie.
Oui, elle a été construite dans les années 60, puisque au moment de l'indépendance, l'ancien palais du haut commissaire a été donné à la présidence, donc est devenu la présidence de la République. Et donc, on a construit en hâte une ambassade qui ressemble un peu à un lycée, à vrai dire.
Mais après, il y a des résidences qui sont très courues. Hein. Il y a un peu une compétition, entre ambassadeurs. Il y avait alors une qui était très très connue, c'était par exemple la villa à Hong Kong, qui a été vendue par le Quai d'Orsay, qui accueillait le consul général et qui a été vendue 50 millions d'euros.
Il y a surtout le Palais Farnèse. Palais Farnèse à Rome. Qui d'ailleurs est périodiquement revendiqué par les Italiens, qui n'acceptent pas que la France le garde, mais c'est un palais absolument magnifique.
Alors, comment, est-ce qu'il y a une guerre de nomination aussi? C'est chic justement d'être ambassadeur à Rome, à Washington, à Londres.
Ça, c'est plutôt des postes pour la fin de carrière, pour des diplomates de carrière, parce que quelqu'un comme Jean-Christophe Ruffin, lui, il est nommé sans être diplomate de carrière. C'est des emplois discrétionnaires qui sont à disposition du président de la République. Souvenons-nous, par exemple, de François Mitterrand qui avait nommé son médecin, Georges Vincent, qui a fait carrière, je crois, Seychelles, Thaïlande, Tanzanie.
Et surtout, il avait nommé des écrivains, surtout François-Régis Bastide, Gilles Martinet.
Tout à fait. Et puis, sur les gros postes, oui, il y a eu un moment où ça bouchonnait un peu au Quai d'Orsay. Il y avait.
Et c'est quoi, c'est des demandes? Il y a un tirage au sort? Ils font un loto chaque année? Comment ça se passe?
Je crois qu'il y a du lobbying, ça peut se croiser avec des relations politiques.
Et ils sont nommés combien de temps?
Normalement, c'est 3 ans, plus un an aujourd'hui. Ça dépend un peu, mais Georges Vincent, par exemple, le médecin de Mitterrand, il est resté 16 années à l'étranger, il a décroché à 67 ans.
Et puis il y a des lots de consolation.
Et puis il y a des lots de consolation.
Par exemple, on a mis Ségolène Royal chez les Pingouins, elle est ambassadeur des pôles en ce moment.
Ouais, et ça, ou chez Picard, c'est pareil.
C'était Michel Rocard qui faisait ça avant. Mais c'est important, non, mais on en rigole, mais en réalité, c'est très important, l'ambassadeur près des
thématique.
Pôles. Parce que c'est un ambassadeur thématique, mais qui s'occupe des pôles. Bon, là, il y avait à l'évidence un petit jeu d'ordre politique. On a mis quelqu'un à qui il fallait donner quelque chose.
Et le rôle du diplomate, on imagine représenter la France, les intérêts de la France, ses relations donc diplomatiques et politiques. Mais est-ce qu'il peut y avoir, comme dans le roman de Jean-Christophe Ruffin, une part d'enquête, d'investigation, de procédure?
C'est un peu toute la France qui se déplace dans une ambassade, en fait. Toute l'administration française qui se déplace. Vous avez l'ambassadeur qui est tout en haut de la pyramide. Et puis à côté, vous avez la chancellerie politique avec souvent de purs diplomates. On y loge aussi parfois les services secrets, sous couvert de fonctions diplomatiques. Et puis, à côté de ça, vous avez le consul général qui s'occupe effectivement des résidents français. Vous avez les douaniers, comme dans le roman sur le suspendu de Conakry. Vous pouvez avoir la coopération militaire, la coopération judiciaire, policière, toute la France se déplace.
Et avec cette fameuse immunité diplomatique, ça c'est comment on peut la définir? On n'a vraiment pas le droit de fouiller la voiture d'un diplomate, de lui demander d'ouvrir sa valise quand il passe les douanes?
En théorie, non. C'est protégé. C'est la convention de Vienne, début des années 60. De même que la valise diplomatique n'est pas une valise, mais qui est un sac postal scellé et théoriquement inviolable. Bon, après, les services secrets des pays d'accueil sont là. Pour violer ce qui est inviolable.
Non, mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a certains diplomates qui font des réseaux, j'imagine, des magouilles, non? Ils sont pas tous
blanc-bleu. Je crois que ça va mieux, mais bon, il y a. Après, moi, j'ai longtemps vécu à l'étranger, au Vietnam. J'ai beaucoup traîné dans les ambassades des pays d'Asie. Et il y a régulièrement des histoires sur, par exemple, la porcelaine de Sèvres qui est mise à disposition pour les repas, les invitations à la résidence. La porcelaine de Sèvres disparaît. Alors, je sais pas combien coûte une assiette de porcelaine de Sèvres.
Suffisamment pour qu'elle disparaisse, en tout cas.
Suffisamment pour qu'elle disparaisse, effectivement.
C'est ça.
Parce qu'on n'a jamais volé une assiette à la cantoche de Radio France, quoi.
Après, il y a des histoires. Moi, il y en a une que j'ai racontée dans le livre, mais c'est un ambassadeur qui quittait son poste, qui en même temps faisait remeubler la résidence, et il a fait faire les meubles en double pour pouvoir en installer la moitié, ceux qui étaient en double dans sa résidence en France.
Nature humaine.
Ça peut arriver.
Vous avez couvert, vous, Jean-Christophe?
C'est assez surveillé quand même tout ça maintenant. Ils vivent plutôt. Enfin, il y a eu telle réduction budgétaire maintenant dans le Quai d'Orsay que finalement, derrière les dorures, il y a pas mal de.
Ils peuvent être amenés à bricoler.
Mais ils sont un peu au taquet en ce moment. Ouais.
Le cas d'ambassadeurs comme Jean-Christophe Ruffin reste des cas rares. Je parle dans le cursus, dans la nomination, dans le profil de l'ambassadeur nommé.
Des écrivains, il y a la tradition des ambassadeurs écrivains, il y a eu Gary, il y a des tas de gens, je sais pas si, je pense pas qu'Emmanuel Macron ait nommé encore d'écrivain depuis non, un peu a, plus, depuis moins d'un an.
Mais il y a des, par exemple, Éric Chevalier, qui est médecin, ouais. qui a été un collaborateur de Kouchner. Bon, lui, il est pas écrivain, mais qui est ambassadeur et qui, lui, s'est même fait titulariser. Donc, il est resté, je crois qu'il est maintenant, je sais plus, aux Émirats Arabes Unis ou je sais plus. Voilà, il y a d'autres
exemples.
Il y a
Olivier Poivre d'Arvor. Olivier
Poivre d'Arvor, par exemple.
En Tunisie.
Voilà, bon. Mais ça, c'est un peu différent. Mais pour l'instant, le président Macron n'a pas l'air de vouloir suivre la, cette tradition qui, pourtant, je pense, est très utile. C'est-à-dire de mêler dans ce corps des gens qui n'en viennent pas. Je pense que ça, ça fait du bien à tout le monde, à condition évidemment de les choisir actifs. Il ne faut pas des gens qui viennent uniquement se mettre sous les palmiers.
Merci Franck Renaud d'être venu nous éclairer aussi, aussi bien. Je rappelle le titre de votre livre, Les diplomates derrière la façade des ambassades de France, c'est aux éditions du Nouveau Monde. Tanguy Pastureau est déjà là, bonjour
oui,
Tanguy.
Bonjour.
Vous allez nous parler d'Olivier Chiabodeau et de Tarek Ramadan.
Oui, puisque Chiabodeau, ex-star de la télé qui a 20 ans a eu les doigts baladeurs, demande une protection policière. Il dit être menacé de mort par Gérard Louvain, le producteur aux cheveux gras. Quant aux victimes présumées de l'affaire Ramadan, pareil, elles souhaitent être protégées parce qu'elles sont agressées sans cesse par des fans de l'autre Gugus. Et moi, depuis 11h40, j'en veux à la vie de Guillermo Guy.
C'est la bande originale. La bande originale avec Leïla Kadour Boudelli.
Bonjour à tous.
Tanguy Bastureau.
Bonjour.
Daniel Morin.
Ah, bravo Daniel.
Tom Villa.
Bonjour.
Guillermo Guy. Et notre invité Jean-Christophe Fort. Jean-Christophe Ruffin qui signe Le Suspendu de Conakry avec ce héros qui est plutôt à la base un anti-héros. Au c'est début, ça. On se dit mais c'est pas possible, c'est pas lui qui va résoudre l'énigme. Et c'est peut-être d'ailleurs cette Aurel, le consul de France à, en Guinée, à Conakry, c'est peut-être lui qui, avec ce, cette, ce côté anti-héros, qui va obtenir le plus d'informations parce qu'il paye pas de mine, donc il n'inquiète pas ceux à qui il pose des questions.
Non, ça, il les inquiète pas du tout. Non.
Et son rapport.
Inquiet pour lui, surtout.
Mais et son rapport avec les Africains aussi, il joue beaucoup. Chaque fois, d'ailleurs, vous précisez, quand il y a un tutoiement, vous précisez que c'est pas une question de manque de respect, mais que c'est plutôt le, l'âge. Il se permet de tutoyer quelqu'un parce qu'il est clairement, il pourrait être son fils, donc il le tutoie. Mais c'est pas du, voilà, du mépris ou de la distance.
Sinon, il vous voit les, mais c'est quelqu'un qui a une sorte de, voilà, de respect, de, c'est pas du tout, il a, c'est pas bonjour patron, machin, pas du tout, une espèce de grand respect. Mais en effet, il y a aussi ce sentiment un peu filial à l'égard de certains d'entre eux, quoi. Mais c'est amusant, c'est que dans cette histoire d'enquête, la police guinéenne, bon, fait son travail tout comme elle peut parce qu'ils n'ont pas beaucoup de moyens. Mais il y a des Guinéens, d'autres, qui, avec lesquels va travailler Aurel, qui lui enseignent finalement la manière de traiter avec des Africains. Parce que le côté j'arrive, j'interroge, qu'est-ce que vous avez fait hier, machin, etc., ça ne fonctionne pas en Afrique.
On boit un café d'abord.
Voilà, il faut s'asseoir. Il faut s'asseoir, prendre son
Et puis il y a les connaissances avec le cousin, l'ami de l'ami, le voisin, on est de la même fratrie ou de la même ethnie.
Voilà, c'est des sociétés où il y a une on peut faire une lecture superficielle en disant voilà, il y a le chef, il y a le sous-chef, il y a voilà, mais en réalité derrière il y a l'ethnie d'origine, puis il y a les origines plus lointaines, savoir à quelle caste les gens appartiennent, etc. Et vous pouvez avoir quelqu'un qui est tout en bas de l'échelle, mais qui est d'une caste élevée et qui finalement va être très respecté par les autres. Mais il faut le savoir.
Mot pour mot ce que vous écrivez dans le roman.
Et puis toujours ces histoires de forcément la France, l'emprise de la France sur ce pays, et de découvrir. J'ai hâte de lire le prochain Aurel ou le prochain, je ne sais pas quand, sur l'Éthiopie, par exemple.
Octobre, il faut attendre octobre.
L'Éthiopie avec l'Italie en trame de fond aussi, j'imagine que...
Alors, là, ça se passera plutôt en Afrique australe, parce que dans des pays qui ne sont pas des pays des anciennes colonies françaises. Mais c'est vrai que là, les relations bon, dans toute cette région d'Afrique de l'Ouest sont très très compliquées. Moi, je veux dire que comme ambassadeur, représenter l'ancienne puissance coloniale c'est dans compliqué. Un pays, c'est très difficile. C'est très difficile. En même temps, moi, j'ai trouvé ça passionnant et je n'ai pas souffert, je veux dire, de ça. Parce que je pense que les Africains répondent aussi à la façon dont on se comporte vis-à-vis d'eux. Si on arrive avec la culpabilité permanente en disant, voilà, pardon, 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 ça se passe très mal. Moi, j'ai toujours dit responsable, mais pas coupable. Je suis pas, c'est pas moi qui, voilà, c'est pas moi qui colonisais, etc. En revanche, responsable, oui, parce que la France, par l'histoire, a créé un destin commun avec ses pays. On a besoin de se sentir responsable de ce qui leur arrive et d'être avec eux pour leur développement, etc. Et sur cette base-là, ça se passe bien.
Pour ceux qui nous rejoignent, Jean-Christophe Ruffin signe donc un nouveau roman chez Flammarion qui s'appelle Le Suspendu de Conakry. L'histoire commence par le titre. Un cadavre se retrouve en haut d'un mât d'un voilier. Il a été assassiné, tué par balle. Le consul de France débarque dans la marina et va au bar et tout le monde se moque un tout petit peu de sa dégaine, de son impair.
Il faut dire qu'il fait 40 degrés et il est couvert comme s'il faisait moins 15.
Oui, il a un manteau en tweed et tout, parce que lui, il vit comme s'il était toujours à Bucarest.
Il est d'origine roumaine, il veut boire que du vin blanc, s'il n'y en a pas, c'est pas grave, il boit rien.
Du toqué. Et c'est un vin sucré qui était très bon, et bien il le fait venir, et puis à son usage personnel.
Et sans avoir le droit de faire une enquête, il prétend que la procédure va lui permettre de contacter la veuve, qui la famille de la personne assassinée, les témoins éventuellement. Avec ce titre, Je suis le consul de France, quelques portes s'ouvrent. Avec son intelligence et son ouverture d'esprit auprès des Africains, les langues se délient bien plus vite, en tout cas qu'au commissariat. Et cette enquête est beaucoup plus efficace que les autres. Mais il le fait toujours en retrait, toujours en respectant le commissaire local, toujours en respectant le rôle et surtout beaucoup de respect sur l'autorité, quelle qu'elle soit, même son propre consul, parce que il va se faire avoiner. Il dépasse un tout petit peu ses prérogatives.
Oui, il rase les murs, hein. Il n'a pas l'habitude d'être en position de force.
Et tout ça avec de la musique. Bon, ça c'est pas la plus... c'est un meurtre au début.
Donc quand même. Vous dansiez là-dessus, Jean-Pierre.
Bon, alors si tu veux, il y a ça.
Ah oui.
Bella ciao, ciao, ciao. Qui est un chant anarchiste, non ?
Je ne sais pas l'origine. Si.
Chant révolutionnaire.
Ouais, c'est un chant révolutionnaire. Ouais.
Les socialistes l'ont utilisé. Ouais.
Surtout le Partigiano, c'est. Oui.
Parmigiano, c'est un fromage. Non.
Tu es italien, toi. Parmigiano.
Il y avait un très beau livre fait par la veuve de Max Gallo sur la vie de sa vie qui s'appelait Obella Ciao, parce que c'était la chanson préférée de Max Gallo.
On va parler de la musique qui est très présente également dans votre roman chez Flammarion, Le Suspendu de Conakry, sublimement bien écrit par Jean-Christophe Ruffin.
Laissez-vous embarquer, allez vous promener à Conakry.
C'est impossible de lâcher.
Oui, laissez-vous suspendre.
On va le dire.
Laissez-vous suspendre.
Conakry, si je peux me permettre, est beaucoup plus beau dans votre roman qu'en réalité, qui est plutôt...
C'est probable. Ouais, enfin, c'est possible, oui.
Il y a quelques décharges. On ne peut plus aller à la plage. La
dernière fois, moi aussi, j'ai trouvé ça dégueulasse.
J'ai parlé à un copain qui avait vécu là-bas, et il m'a dit la plage est remplie de sacs poubelles, il n'y a plus de plage.
C'est l'avantage de la littérature, c'est que tu voyages, c'est beau, et en plus tu pollues pas avec la
plage. Et tu enlèves les sacs poubelles.
C'est ça.
Ça coûte moins cher.
Voici Tanguy Pastion sur Inter.
Ah, c'est lui.
Tanguy, on ne connaît plus trop Olivier Chabaudeau.
Non, et pourtant Olivier Chabaudeau, ça a été toute ma jeunesse. Ouais. Il y avait lui, les boutons d'acné et les caleçons larges, puisqu'avant le lancement du Boxeur Moulin, on avait des caleçons qui remontaient quand on enfilait son pantalon. On pouvait mettre 2h10 à s'habiller. Les gens disaient, t'as fait quoi toi ce matin? Moi, j'ai mis mon caleçon. Mais il n'y avait pas les réseaux sociaux, donc il fallait bien trouver un moyen de perdre son temps. Alors Chabaudeau a animé La Roue de la Fortune, qui était un jeu où quand il y avait marqué Les Isérables avec une lettre manquante et la mention roman français, un candidat disait, écoutez, je vais prendre un B. Puis, Interville, où il a été accusé de tricherie. Il indiquait avec les doigts à un participant le numéro de la bonne réponse d'un quiz. Chose qui n'arrive que dans les pays riches, puisque ceux où il y a encore la lèpre, les gens n'ont pas assez de doigts pour faire ça. Du coup, c'est moins esthétique, mais on gagne en qualité de jeu. Alors, cette affaire lui a coûté sa place, et là, il porte plainte contre TF1 pour harcèlement moral. Il est remonté comme un coucou suisse par un tennisman français. Du coup, il balance à la presse, il dit avoir avoir assisté à des choses terribles. Jean-Pierre Foucault serait allé jusqu'à ponctionner la graisse d'une vachette afin de l'étaler sur sa face et bronzer plus vite. Et Chiabodo demande une protection policière, car dit-il, il serait menacé de mort par Gérard Louvain, le producteur d'Interville de l'époque, qui a aussi fait L'île de la Tentation et Greg le millionnaire, et qui donc attend son jugement par la Cour pénale internationale de La Haye pour crime de guerre aggravé. Alors Chiabodo déclare aux Parisiens, Louvain me disait de manière subtile, les camions roulent vite dans Paris, fais attention avec ton scooter. Ah, donc si ça c'est subtil, une fille en mini-short qui frotte son boule sur un zouglof contre le pubis d'un béquet excité, c'est une douce romance. Hein, donc en plus, c'était il y a longtemps, puisque depuis Anne Hidalgo, les camions sont à l'arrêt dans Paris. Donc pour se faire buter, il faut au minimum foutre une serviette de plage sur la voie et s'allonger avec un mojito, sous le regard étonné des ragondins qui construisent un barrage avec des canettes vides sur la route. Donc là, Téléstar appelle Louvain, qui nie. Hein, forcément, il n'allait pas déclarer « Ouais, je vais le dessouder, je suis plus barré qu'Al Capone, je suis à deux doigts de me mettre au Vélib comme un pouilleux de France 4 juste pour rouler sur cette enflure. » Donc c'est parole contre parole. Il y aura enquête, le chien de Télé Z va venir sniffer tout le monde et Thierry Moreau va trancher. Mais bon, Chiabodo demande à être protégé par la police. Ça n'est pas rien.
Sauf que là, dans la réalité, il y a peu de protection policière mise en place.
Oui, parce qu'on dit que ça coûte cher. Déjà, on doit protéger tous nos ex-présidents, dont Giscard qui est éternel, certains ministres, les gens de Charlie Hebdo. Mais bon, c'est la reprise. Macron vend des rafales, Buzyn vend des vaccins, Darmanin ne vend rien, il n'a pas l'âge, mais il échange des vignettes Panini avec ses copains. Donc, si on cherche un peu de brosouf, on en trouve. Comme je le dis souvent aux gens de France Inter qui me répondent « Ah, je dois y aller, j'ai une réunion qui démarre tout de suite. » Exemple, les trois victimes présumées de Tariq Ramadan, hein, qui reçoivent des menaces de mort H24, dont l'identité, l'adresse circulent sur le net. Elles sont plus connues que Tonton David en 95. Ont zéro protection. Alors, l'une d'elles a été tabassée dans le hall de son immeuble par deux hommes avec des casques. Et là, on n'est pas sur du François Hollande qui déboule en scout avec la bouche en cœur et le corps à 60 degrés. Elle a été menacée d'exécution. Les types lui disant qu'ils allaient l'asperger d'essence et y mettre le feu. Elle a porté plainte. Donc on a trois dames qui accusent Ramadan de viol d'un côté, laissées totalement seules par l'État, face aux fans de Ramadan que l'affaire rend fou. Parce que Ramadan, pour eux, c'est au-delà de Dieu. Il est au-dessus de la stratosphère avec les Bogdanov et le cerveau de Brigitte Fontaine. Hein, une cagnotte sur Internet à son attention a récolté 100 000 euros. Enfin, je sais pas. Donnez plutôt à la Ligue contre le cancer ou à Amel Bent pour qu'elle soit pas contrainte de reprendre sa carrière. Hein, au salon des musulmans de France, ex-UOIF, donc certains musulmans, hein, du Bourget le week-end dernier, le président de l'organisation au micro a quand même dit « Tariq, tu nous manques hein, », alors qu'il est accusé de multiples viols. Donc c'est comme si aux Oscars, Warren Beatty, avant de se planter sur le prix du meilleur film, avait dit « Et on pense très fort ce soir à Harvey Weinstein, cher petit ange parti trop tôt, on est avec toi, Harve, mon gros bébé, prends bien tes gélules de bromure, si tu veux revenir très vite, on te kiffe ». Bref, l'État ne réalise pas à quel point Ramadan est une idole. Hein, c'est Jérôme en 76 avec des cheveux normaux. Et à quel point s'attaquer à lui est dangereux. C'est comme de faire une chronique sur Mélenchon quand vous tenez à rester au calme sur Facebook, mais dans le monde réel. Parce que là, les présumées victimes risquent leur vie. Donc on résume. Un policier pour Chiabodo, afin d'éviter que Gérard Louvain l'attache sur une chaise et l'oblige à regarder des vieux sacrés soirées sur le site de l'INA. Même Kim Jong-un hein, ne pratique pas ce genre de torture. Un pour chacune des plaignantes de l'affaire Ramadan, ça fait 4 personnes, 8 si c'est du 24 heures sur 24, c'est rien, une goutte d'eau dans le budget. Quand Édouard Philippe se tape un retour du Japon avec un avion de chez Kiloutou à 350 000, personne dit rien et il n'est pas en danger de mort lui, sauf s'il passe trop près du réacteur parce qu'à cause de cette taille, il aura la tête dedans. Bon, ça fait 6 mois qu'on dit aux femmes de parler et quand elles parlent, il n'y a personne pour les protéger, bah c'est un peu léger quand même.
Merci.
Bravo.
Alors, la bande originale de votre roman, Jean-Christophe Ruffin, Le Suspendu de Conakry, on a par exemple aussi du Ray Charles.
George.
Ça, c'est pour draguer que Aurel joue du...
Bah oui, il essaye. Il était prêt à se mettre des lunettes noires pour que ça marche mieux, mais...
Ah, il en a des lunettes noires, hein, mais de toute façon, Yves Montand dans l'aveu.
C'est ça.
Mais c'est pas celle de Ray Charles. Il joue également... Pourquoi c'était important qu'il soit musicien ?
Les gymnopédies.
Mais, oui, Satie.
Les,
Parce que c'est un rêveur. Alors, on peut rêver en regardant des tableaux, on peut rêver visuellement, c'est mon cas. Moi, je suis un visuel, je ne suis pas un musicien du tout, mais lui, il rêve comme ça. Et il pense, et il essaie de dénouer ses intrigues comme ça. Alors, il met la photo, par exemple, de la victime sur son piano, et puis il joue, il improvise, puis il voit des images. Il y a beaucoup de choses qui lui viennent en tête comme ça quand il improvise.
Et le regard de la victime, d'ailleurs, évolue. C'est la même photo du début jusqu'à la fin du roman, mais la vision qu'en a Aurel n'est pas la même.
Non, parce qu'il lui parle d'une certaine façon. Il a un petit côté comme ça, un peu télépathique. Et puis, c'est quelqu'un qui rêve sur des visages, qui est capable de... je pense que tout le monde en est capable, mais lui, il a développé cette faculté de façon particulière à cause de la musique, parce qu'il quand il voit un visage, il voit la personne aux différentes période de sa vie. Donc, il voit cet homme à un moment donné, quand il a retrouvé ce portrait de lui, mais il est capable aussi d'imaginer ce qu'il était à 20 ans et pourquoi il s'est marié avec cette
quel genre de mari ou quel genre de père aussi. Ça. Parce que la notion.
Moi, je crois beaucoup à ça.
La victime est un papa. Ça aussi, c'est important. C'est un papa endeuillé puisque sa fille est malheureusement partie trop tôt, comme c'est toujours le cas d'un enfant d'ailleurs.
Et c'est comme ça, c'est-à-dire que à travers ce crime, finalement, et cet absent, cet homme absent dont il a l'image, il y a tout un archipel d'autres images qui apparaissent autour, certaines liées à sa famille, certaines liées à son histoire personnelle, à ses choix, et puis à ses engagements, parce qu'au fond, moi, j'ai voulu écrire quelque chose. Je me compare vraiment pas à son talent, mais alors Jim de Conrad, qui est l'histoire d'un homme qui a loupé une première fois une occasion dans sa vie, donc une occasion d'être héroïque. Il a loupé le coche. Il n'a pas réussi à se comporter comme il aurait voulu le faire, dignement. Et quand l'occasion se présente de nouveau plusieurs années après, eh bien, il va essayer de rattraper ça et il va faire quelque chose qui va tourner au
drame. Être utile.
Mais être utile, mais qui va, va lui coûter très cher. Voilà. C'est toujours cette histoire. Et moi, je crois beaucoup à ça dans le comportement des gens, une personne qu'on voit autour de nous, un comportement énigmatique, anormal, etc. Souvent, il s'explique par une sorte de deuxième chance qu'ils essaient d'avoir dans la vie.
Ça va, Daniel ?
Daniel s'est endormi profondément, pardon.
Ça peut sembler disproportionné. Ça peut sembler disproportionné, mais c'est à revoir avec la perspective du passé et de l'occasion manquée.
Ça
marche. Et qu'est-ce qu'il y a de vous ? Je vois que Jacques Maillère, le personnage, la victime, vient de Haute-Savoie. J'ai essayé de chercher, moi, des traces
de Ruffin, quelque part.
Il y a Aurel aussi, il y a quelques points communs. Qu'est-ce que vous avez jeté à droite à gauche?
Il est peut-être partout, même dans les femmes.
Il vient de Haute-Savoie. Ça, c'est parce que j'ai écrit le livre en Haute-Savoie. Et voilà.
Il y a un autre personnage qui parle de Saint-Jean-d'Angély. Donc moi, j'essaie de faire des ponts.
Saint-Jean-d'Angély, oui, j'avais été invité à Saint-Jean-d'Angély. C'est-à-dire que, en fait, j'attrape
Le toqué, j'ai bu une bouteille.
Mais non, mais on fait comme ça. Quand j'écris des livres très vite, et les trucs viennent comme ça par des souvenirs, des petites rencontres, si vous voulez. Et c'est vrai que là, on m'avait raconté. En fait, c'est une. En Haute-Savoie, je fais du tir au pistolet pour me détendre. Il y a un club de tir comme ça. Et il y a une dame qui est là et qui un jour m'a donné un livre qui était un livre très modestement écrit par son aïeul qui racontait l'histoire de la vie de ces gens des métiers du bois, de scierie, fabricant de meubles, etc. de Haute-Savoie. Et j'étais en train d'écrire Aurel. J'ai mis dedans. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça.
Oui, parce que. Il faut préciser que la personne qui est la victime de ce livre était d'abord le fils d'un propriétaire d'une série et les choses n'allaient pas très très bien et finalement il a fait fortune et on ne sait pas très bien d'ailleurs s'il a fait fortune suite à son mariage ou juste avant son mariage. Est-ce que la femme était un moteur ou au contraire était venue lui pomper tout son argent lorsqu'il est devenu millionnaire et lorsqu'il a vendu sa série à des Chinois, si ma mémoire est bonne.
Très bonne, Nagui.
C'est pour ça que cet angle-là fait partie, encore une fois, de toutes les facettes passionnantes qu'il y a dans Le Suspendu de Conakry, signé Jean-Christophe Ruffin, chez Flammarion. C'est passionnant. Et ce n'est pas le cas de tout le monde autour de cette table.
Ça bosse, hein.
Voici Daniel Morin.
Il bosse.
Nous allons rester dans l'univers des enquêtes, si vous le voulez bien. Et vous le savez, ici sur Inter, on a le souci de l'information et de la vérité chevillée au corps. Pour nous, service public, c'est bien plus qu'une dénomination. C'est surtout une promesse. Ce matin, je vais donc revenir sur une affaire, une sale affaire, sur laquelle on est passé un peu vite. Pourquoi est-on passé un peu vite dessus ? Bien tout simplement parce qu'elle se déroule en province. Et que les médias traditionnels, en quête de sensationnalisme urbain, ne jugent que très rarement nécessaire d'évoquer nos régions et les malheurs qui frappent leur population déjà fort sinistrée par le manque de moyens et de culture. Dans le sud-ouest du pays, une femme de 94 ans a été retrouvée morte dans son jardin. Le coupable pourrait être un bouc qui l'aurait bousculé. Ne riez pas, c'est une affaire triste. Une affaire triste qu'on se devait de creuser ici au service public.
Affaire sensible.
L'histoire d'aujourd'hui est troublante. Elle est étrange, elle est aussi effrayante. Elle est en tout cas, elle est sensible. Calmez-vous, madame, calmez-vous. En Dordogne, dans la petite commune de Saint-Médard de Mussidan, vit une femme seule. Femme âgée de 94 ans qui, tous les jours que Dieu fait, entretient, comme elle le peut, son petit jardin où pousse de façon erratique quelques légumes qu'elle consomme pour donner un petit coup de pouce à sa maigre pension. Et puis, le lundi 2 avril 2018, le corps de la nonagénaire est retrouvé sans vie aux environs de 13h34. Elle gît au sol au milieu de ses légumes, les circonstances de sa mort sont floues. On ne lui connaissait pas d'ennemis, alors l'enquête part tous azimuts. On interroge les voisins, les amis, les trafiquants de légumes. Rien. On est au point mort. Puis d'un coup, l'enquête fait un bond, elle progresse. On a un suspect. Un suspect pas banal. Oui, pas banal, le suspect est un bouc. Un bouc en milieu de vie dont le quotidien n'a rien d'exceptionnel. Il passe ses journées à brouter, à renifler les brebis. Mais à part ça, rien. Pas à casier, pas d'antécédents judiciaires, pas de mauvaise fréquentation, ni d'addiction particulière qui aurait poussé le bouc à basculer dans l'impensable. Mais un bouc qui, renseignement pris, avait mauvais caractère. Dans le voisinage, les témoignages de sautes d'humeur du caprin deviennent de plus en plus nombreux, de plus en plus détaillés. Le bouc serait caractériel, tendance bipolaire. Sympathique mammifère broutant, il pouvait passer en une fraction de seconde à l'état de bête hirsute et vandale en quête de destruction de jardinets. Oui, mais tout ça, ce n'est que de la suspicion, pas de témoins, pas de preuves. Les inspecteurs espèrent des aveux pendant la garde à vue. Une garde à vue complexe. Le bouc de nature taciturne n'est pas loquace. Les inspecteurs lui mettent sous le nez les photos des traces de sabots fondus qu'on a retrouvées près du corps de la victime. Des traces bien spécifiques qui n'appartiennent qu'à deux catégories animales, les boucs et André Manoukian. Mais André Manoukian, à l'époque des faits, a un alibi en béton. Il est déjà en garde à vue dans un commissariat d'Erevan pour une sombre histoire de choriste violenté puis dépecé. Il n'a rien à voir avec l'affaire sensible qui nous tient en haleine aujourd'hui. L'étau se resserre sur le bouc qui ne dit rien. Il fume clope sur clope et finit par dire aux inspecteurs « Arrêtez, c'est pas moi, au moment des fêtes, je regardais, n'oubliez pas les paroles. » N'oubliez pas les paroles, une célèbre émission animée par un homme au physique rassurant, mais qui, selon une étude, rend les téléspectateurs nerveux, voire psychopathes sur le long terme. L'enquête stagne, mais le profil du maniaque se dessine. Quand d'un seul coup, l'inspecteur principal tape du poing sur la table et s'écrie « Psychopathe et mythomane ! Au moment des faits, monsieur le bouc, vous dites que vous étiez en train de regarder « N'oubliez pas les paroles ». Or, « N'oubliez pas les paroles », c'est en fin d'après-midi, et le corps de la victime a été retrouvé vers 13h34. Votre alibi ne tient pas la route ! Pris dans la tourmente du mensonge, le bouc se met à transpirer. « On sait que c'est toi, sale bouc de merde !» hurle l'inspecteur. Pris de panique, se sentant pris et que l'essau ne se desserrera plus, le bouc se lève et crie « Ciao, ciao, ciao !» Puis il saute par la fenêtre. 60 étages plus bas...
Ah oui,
le bouc J.
Quand même, bouc J.
Le bouc J. Était-ce lui le responsable ? Lui le coupable ? Tout porte à le croire, mais sans aveu, on ne le saura jamais vraiment. En tout cas, c'était... une affaire sensible. À demain.
Merci, bravo. Merci. Les gars.
France Inter.
Je sais pas si on peut en faire un roman, mais enfin, il y a des bases. Il y a des bases.
Une enquête.
À propos de book, il y a un très bon livre, celui de Jean-Christophe chez Flammarion. Le suspendu de Connecry.
Non, mais j'étais pas.
De Connecry. Et.
C'est plus simple, moi.
Je pouvais pas faire plus simple, franchement. Même Henri l'aurait fait, hein, Laurent.
C'est pour ça.
Même Henri l'aurait compris.
C'est pour ça que vous êtes beau jour devant vous.
Jean-Christophe Ruffin, merci pour ce livre et surtout bravo. Et on a hâte de lire Aurèle le Consul.
La suite.
Oui, la suite qui va. Alors, est-ce que vous allez. Pourquoi ne pas avoir pris un titre qui était Aurèle, deux points, et de voir que c'est une suite dans le titre, puisque là, ça s'appelle Le Suspens du Conakry. Si l'autre, vous l'appelez
L'éventré de
Kinshasa.
De Kinshasa, on ne saura pas que c'est Aurèle.
Oui, on va voir. On va voir. On pourra. Voilà. Non, on va y arriver.
On va trouver une solution.
C'est moi tranquille.
Est-ce que vous avez déjà le titre? Vous avez déjà
non,
le titre?
Non, on n'a pas le titre. On n'a pas de titre. Le titre, c'est terrible parce que soit vous les avez pendant que vous écrivez le bouquin, soit c'est un cauchemar. C'est-à-dire qu'après, il faut. Voilà, on en remplit des pages et des pages.
Bon. J'arrête de vous torturer.
Mais on en trouvera.
Je suis pas inquiet. Et c'est vraiment bien. Je vous recommande cette lecture. C'est passionnant. Jean-Christophe Ruffin, Le Suspendu de Conakry. Merci Jean-Christophe. Demain, nous parlerons de permaculture avec Maxime de Rostolan et Xavier Mathias. On a 20 ans pour sauver notre planète.
J'y crois pas.
Et c'est très positif comme émission. Ça sera demain à suivre. Les carnets de campagne de Philippe Bertrand. Bonjour Philippe.
Oui, bonjour Nagui, bonjour les amis. Salut. J'aurais même pas osé le book, le livre.
Moi non plus, hein, j'ai pas osé.
Ah, bah, si tu l'as fait.
C'est pas Nagui.
En tout cas, j'ai appris, j'étais suspendu évidemment au volet, j'ai appris que Jean-Christophe, pour écrire un bouquin, va chasser le bouquetin. Dans Haute-Savoie, non, c'est bien ça.
C'est ça. Je chasse pas le bouquetin, mais je vais
mettre. Non, c'est un club de tir et il tire sur les femmes qui apportent des livres.
Ah, d'accord.
Si j'ai tout compris.
Bon, ça y est, ça va mieux. Merci les amis.
Bonne émission.
Salut.
Salut.
Salut.